Salut et bienvenue à tous dans ce deuxième mais encore tout nouveau podcast de 24 images. Je suis vraiment, vraiment contente de vous retrouver. Et avant de commencer, j'aimerais dire deux petites choses. D'abord, vous remercier tous qui êtes à l'écoute pour l'accueil extrêmement chaleureux que vous avez réservé au premier épisode de ce podcast, que ce soit sur notre site, sur nos réseaux sociaux, sur iTunes. Vraiment, on ne pouvait pas rêver meilleur accueil et ça nous a fait très très chaud au cœur. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce deuxième épisode du podcast de 24 images que vous écoutez, eh bien, c'est du bar-salon de la Cinémathèque qu'il vous arrive, plus précisément de la terrasse du bar-salon de la Cinémathèque. La Cinémathèque qui a vraiment des bonnes idées ces temps-ci et qui a eu celle, parmi ces bonnes idées, de nous accueillir ici, nous 24 images, dans ces nobles locaux. Alors, je prendrai une seconde pour remercier la Cinémathèque, Marcel Jean et Marie-Christine Picard de nous avoir réservé cet accueil. Alors maintenant, on passe évidemment aux choses sérieuses. Je vous rappelle le principe de ce podcast. Je suis Hélène Faradji, je serai votre animatrice pour la prochaine heure, entourée de mes trois invités. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Pierre Corbeil, le président de Fantasia, bonjour.
Bonjour.
Alors Fantasia, ça va avoir lieu du 14 juillet au 2 août. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. On imagine que tu es pas mal occupé ces jours-ci.
Oui, absolument, mais ça me fait plaisir de te retrouver.
C'est une belle édition de Fantasia qui se prépare. On a déjà annoncé la présence de Takashi Miike, Guillermo del Toro, Marilyn Manson, Kevin Smith. Ça se présente bien?
Oui, on a encore d'autres annonces pour la conférence de presse du 6 juillet.
Est-ce qu'on peut en avoir une en exclusivité?
Non, mais ça s'en vient vite, le 6 juillet
ah,
quand même.
Bon, j'aurais essayé, c'est pas grave. Martin Girard, bonjour.
Hello.
Ancien critique, rédacteur en chef de Mediafilm notamment, devenu scénariste depuis, on a pu entendre tes bons mots dans Le secret de ma mère, Ma fille, mon ange. Et en ce moment, on peut suivre ta nouvelle série Web Thérapie sur les ondes de TV5. Et puis évidemment, Nitro Rush qui arrive le 31 août prochain, 8 ans après le premier épisode. Il a été présenté au Festival de Shanghai et le film a déjà été vendu à l'étranger, si j'ai bien compris.
Oui.
C'est une bonne nouvelle, tout ça aussi.
Oui, surtout pour un film qui est la suite d'un film qui n'est pas connu du tout à l'extérieur du Québec. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire que le film se tient en lui-même. Donc, c'est bien. C'est une bonne nouvelle pour nous, c'est sûr.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Et Alexandre Fontaine-Rousseau, bonjour.
Allô, Hélène.
Ça va bien?
Oui.
Critique un peu partout. Panorama Cinéma, évidemment 24 images, BDiste, animateur radio et auteur notamment d'un article sur le dernier Batman versus Superman qui portait le doux nom de « Qui pourra sauver les super-héros ». Alors, qui?
Je sais pas.
Aucune idée?
Aucune idée.
Nous, peut-être, aujourd'hui?
C'est à toi de voir.
On va essayer, en tout cas. Et évidemment, à la technique et à la prise de son, Pascal Plante, qui, encore une fois, fait un travail impeccable pour vous faire parvenir ce podcast. Comme je vous le disais, nous sommes en direct de la Cinémathèque québécoise, de la terrasse du bar-salon. Et il se peut que quelques gouttes de pluie s'invitent dans la partie, ce qui serait tout à fait dans le ton, parce que la question que nous avons voulu nous poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Le blockbuster est-il un genre mort? Alors là, s'il y avait eu un coup de tonnerre, ça aurait été absolument parfait. Malheureusement, la météo n'est pas avec nous. Mais le blockbuster, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse aujourd'hui? D'abord parce qu'on rentre dans l'été, évidemment, la grande saison du blockbuster va commencer. Mais surtout parce que l'apprentissage de la cinéphilie se fait évidemment par le visionnement de classiques, mais aussi de blockbusters. On reviendra sur le terme lui-même qui n'est peut-être pas le plus approprié. Mais autour de la table, je suis sûre qu'on ait des exemples de cette cinéphilie un peu bicéphale qui se forme à la fois avec les plus grands classiques et les films les plus populaires, les plus divertissants. Pour ma part, j'essayerai pas de mentir, Indiana Jones, Star Wars, Die Hard, ça a vraiment marqué ma conception du cinéma. J'ai compris que le cinéma pouvait être un divertissement noble, avec de l'aventure, que l'action était palpitante avec ces films-là. Et donc, je me demandais, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est vous, quel est ce film-événement qui a marqué votre parcours de cinéphile, Martin?
Moi, ce sont les films d'horreur de la Hammer.
Ça, tu considérerais que c'est des blockbusters?
C'est pas nécessairement des blockbusters, mais pour répondre à ta question, c'est-à-dire qu'est-ce qui a marqué ma cinéphilie, ça a été quoi la bougie d'allumage, c'est ça. Ce n'était pas des blockbusters. Pour moi, le blockbuster qui a marqué mon adolescence, c'était jazz.
Jazz, hein?
Oui, wow. Totalement. Évidemment. Totalement. Totalement. Et sans aucune hésitation, ça a changé ma vie. Je suis sorti de ce film-là, j'étais dans un état d'euphorie indescriptible. Je me disais, my God, OK, c'est ça. Pour moi, c'était ça le cinéma. Ouais, vraiment, là, ça a été un coup de foudre.
Alexandre, est-ce que les requins t'ont marqué aussi à ce point-là ou c'était un autre film?
Ben oui, absolument. Là. C'est sûr que Jaws fait partie de mon parcours de cinéphile. Là. Si j'avais à en nommer un, peut-être, qui m'a plus marqué que n'importe quel autre, c'est vraiment Star Wars. Ben, en fait, la première trilogie Star Wars. Là. Moi, avant d'avoir un VHS à la maison, je me souviens qu'on ait loué un VHS au club vidéo pour pouvoir écouter Star Wars avec mes frères. Puis j'avais peut-être 4 ou 5 ans, puis mes frères étaient un petit peu plus vieux que moi. Ils étaient nés quand Star Wars est sorti. Puis ils me parlaient de ça comme du plus grand film. Ils m'avaient vraiment mindé pour que ce soit une expérience majeure, ce que ça a été. Là, c'est sûr qu'après ça, il y a aussi, pour moi, il y en a un autre que je peux pas passer sous silence. Puis c'est un autre Steven Spielberg. Puis je pense que c'est celui de ma génération, si tu veux. Là. Puis c'est vraiment Jurassic Park, là, qui est un film que j'avais l'habitude d'écouter, puis de réécouter, puis de réécouter. Puis ça, c'est un film qui est sorti quand j'avais, je pense, 8 ans. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'il y avait comme... T'sais, je pense que c'est un switch majeur dans l'histoire du genre, mais je pense aussi que il y avait comme c'était juste assez épeurant pour me terroriser juste assez en tant qu'enfant. Puis en même temps, c'était... Je sais pas. C'est vraiment un film qui m'a marqué beaucoup, là, ça aussi. Ça.
Pierre, directeur de Fantasia, j'imagine qu'on ne devient pas directeur de Fantasia et donc d'un festival de films de genre sans avoir flirté avec le blockbuster durant ces jeunes années.
Oui, absolument. Ben moi, en fait, c'est drôle parce qu'on parlait de films de Hammer. Moi, je suis né en 63, donc peut-être, je dirais, entre 8 et 12 ans, à tous les dimanches, j'allais au cinéma de quartier, puis on présentait 4 films.
Oh, wow.
Et c'était des thématiques, donc on pouvait avoir des peplums, on pouvait avoir donc des films d'Hammer, on pouvait voir des films de science-fiction japonais, donc les films de Toho et tout ça. Donc c'est vraiment pour moi là la genèse, on peut dire, de ma cinéphilie, ça part de là. Et quand Jaws est arrivé, ben moi, j'avais 12 ans.
Ah ouais, pile l'âge.
C'est vraiment pour moi la période la plus excitante. Ça a été comme entre 75 et à peu près 82, je dirais. Pendant ces années-là, j'allais au cinéma très régulièrement. Puis les blockbusters étaient, oui, effectivement, Jaws, effectivement, Star Wars. Je pense pour moi le plus marquant, ce serait un autre Spielberg, Close Encounter of the Third Kind,
a
été renversant. Et j'avais vu une émission d'ailleurs où on demandait à plusieurs personnalités le film qui les avait les plus marqués, toutes catégories confondues, des acteurs très connus, des réalisateurs, et Close Encounter revenait assez régulièrement.
Ben, c'est vrai que c'est un film peut-être qui, pour la première fois, mêlait au divertissement une approche de film d'auteur, ou en tout cas, on comprenait qu'il y avait quelque chose de plus que du divertissement pur et dur.
Absolument.
Grâce à ce film-là,
quasi religieux comme expérience. Puis pour moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'était très mystérieux, mm-hmm. comparé à maintenant où on apprend un film, on sait quand le scénario est écrit, où il va être tourné, ainsi de suite. Moi, j'avais pratiquement aucune idée. Je savais que c'était le film du réalisateur de Jaws, puis l'affiche était très mystérieuse et tout ça. Donc, ça a été autant au niveau de l'histoire, de la thématique, des effets spéciaux qui étaient vraiment renversants. Là. Donc, pour moi, je dirais que c'est celui-là que je considérais qui m'a le plus marqué. Là.
Mais je suis contente qu'on ait commencé par Jaws parce qu'effectivement, c'est vraiment le film qui va tout changer. En 1975, le requin Bruce va terroriser Amity et les gens vont se précipiter au cinéma. Et ça va être un succès un peu inespéré. D'abord parce que jusque-là, l'été était la saison morte hein, au cinéma. Les gens n'allaient pas au cinéma. Et Universal va réussir à faire venir les gens au cinéma durant l'été pour voir cette histoire de requin réalisée par Steven Spielberg. Mais surtout, ils vont inventer une nouvelle façon de populariser les films, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser des spots à la télévision pendant des mois avant la sortie du film. Donc on a déjà cet élément marketing qui d'emblée va définir le genre du blockbuster, ce qui va être continué par la suite avec évidemment Star Wars et les produits dérivés. C'est drôle parce que je revoyais E.T. il n'y a pas si longtemps. Et dans E.T., le petit Elliot joue avec des figurines de Star Wars. Donc, il explique à E.T., voilà, ça, c'est Boba Fett. Donc, on voit déjà la promotion croisée qui, dès les balbutiements du blockbuster, était là. Et ensuite, bon, les années 80-90, c'est les effets spéciaux, c'est les super auteurs, James Cameron, etc. On arrive dans une ère un peu différente. Il y a beaucoup de théoriciens du blockbuster qui pensent que le 11 septembre a vraiment tout changé dans l'univers du blockbuster, c'est-à-dire que c'est un moment où ce ne sont plus tant les victimes humaines que les démolitions à grande échelle des monuments, des villes. C'est-à-dire que tout arrive au bâtiment et c'est l'ère de l'apocalypse, du chaos. Est-ce que vous, ça vous semble plausible, cette thèse-là, que le 11 septembre va changer le blockbuster? Alexandre?
Ben moi, je suis parfaitement d'accord avec... je m'enligne parfaitement avec ça. Je veux dire, il y a eu un apprentissage de la destruction pour le public, j'ai l'impression. Puis c'est intéressant aussi de voir à quel point... d'une certaine manière, ces images-là, au début, étaient un petit peu cachées. T'sais, on se rappelle quand, je pense, c'est le premier Spider-Man qui est sorti, puis on avait effacé les tours du World Trade Center, du background. Puis là, finalement, on se retrouve plusieurs années plus tard, puis on tombe dans... Moi, je trouve que la finale du Superman, du Man of Steel de Zack Snyder, c'est quand même dans le genre spectacle de la destruction avec, mettons, Transformers... Dark of the Moon, c'est les deux films qui ont le plus été loin dans le... On va vous donner comme 50 minutes d'images de destruction de ville, puis vous êtes maintenant capable de revoir ça sans que ça... J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus... C'est un peu passé, cette époque-là. Là. J'ai l'impression que lentement, mais sûrement, c'est devenu tellement monnaie courante que... Mais c'est sûr qu'après le 11 septembre,
il y a quelque chose qui
change. Mais en même temps, je veux dire, on pense à un film comme Independence Day, puis Independence Day, c'est déjà un peu l'amorce... de cette espèce de...
Absolument, oui, c'est vrai. Dont la suite arrive dans quelques semaines, d'ailleurs. On est bien impatients de voir ça. Martin, est-ce que toi aussi, tu as l'impression qu'avec le 11 septembre, quelque chose a changé dans l'univers du blockbuster?
Peut-être. Je dis pas que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que c'est plus, par contre, le développement des effets spéciaux.
OK.
Je pense qu'il y a vraiment eu, à partir du moment où on a commencé à voir apparaître de façon massive... les effets par ordinateur, tout ce que ça permettait, le CGI, en termes de, justement de destruction, mais bon, tout le reste, la création d'univers qu'on pouvait pas imaginer. Moi, je pense que ça a vraiment été ça. Je pense que c'est une évolution, parce que les films catastrophes, ça existait dans les années 70. Il y en a eu toute une flopée. C'était déjà des blockbusters. Ils avaient énormément de succès. Mais tous ces films-là, ensuite, ont été refaits avec les effets spéciaux, le développement des effets spéciaux. Je pense que c'est vraiment ça qui a été, pour moi, l'évolution la plus marquante là, dans le genre de blockbuster.
Mais c'est drôle parce que Steven Spielberg récemment parlait du Bon Gros Géant, qui est son dernier film en date, et il expliquait que c'est un film qu'il veut faire depuis plus de 10 ans, mais que les effets spéciaux n'étaient pas assez au point et que donc il a dû attendre que ce soit assez développé techniquement pour pouvoir enfin y arriver. Pierre, pour toi, est-ce que c'est un développement technique qui a permis cette nouvelle façon de faire des blockbusters, ou c'est un effet socio-politique, culturel?
Moi, en fait, je suis tout à fait d'accord avec les deux positions. J'y pensais, puis c'est effectivement, on vit dans un monde différent, je crois, depuis le 11 septembre. Il y a vraiment... Puis on le vit encore aujourd'hui. Je me disais, on regarde un bulletin de nouvelles, c'est pratiquement à tous les jours qu'on est dans cette dynamique... on peut dire, de problématiques terroristes. Donc, on vit dans un monde différent depuis 15 ans. Je trouve ça très intéressant par rapport... Effectivement, on voit dans des films des scènes de destruction qui, moi, en tout cas, me frappent comme faisant écho à ça, mais récemment, c'est comme si ça prenait quand même un certain nombre d'années avant qu'on puisse émotivement regarder ça puis sans se sentir tellement... mal à l'aise, que finalement, ça aurait un effet qui serait pas intéressant pour le spectateur, ce qui est évidemment pas ce qui est recherché par les blockbusters.
Non.
Mais effectivement, je pense aussi qu'on vit dans un monde différent au niveau de technologiquement, l'accès à des émissions de télé de très haute qualité et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut produire qui va aller chercher le spectateur? Ben, on lui en met plein la gueule avec des effets spéciaux de plus en plus spectaculaires. Mais d'un autre côté, combien de fois on peut détruire une ville, une planète? Ça devient un peu... On parlait du film de Superman, pas le dernier Superman contre Batman, mais l'autre avant. Moi, j'ai des amis qui adorent les films de super-héros et tout le monde était unanime que c'était vraiment lassant à la fin qui durait comme, je sais pas, 20-30 minutes de destruction constante. Puis oui, c'était très beau, c'était très bien fait, mais au niveau narratif, c'était totalement inintéressant. Je pense qu'il y a un essoufflement à ce niveau-là où je regardais la bande-annonce justement du Independence Day qui s'en vient. Puis on voit qu'on mise encore plus, je pense, sur l'humour, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On a une surenchère de destruction. Mais je sais pas, je sens qu'on arrive à un point là, de saturation.
Ouais. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'il y a un point de saturation qui est atteint. Puis je pense que de plus en plus, il va y avoir un retour. Je veux dire, des cinéastes comme John McTiernan, l'enjeu principal de leur cinéma, c'était le territoire, c'était l'espace. Puis à partir d'un certain point, je veux dire, les super-héros peuvent faire n'importe quoi, puis ça devient... Il n'y a plus de défis physiques.
Non, c'est vrai.
Puis c'est sûr que ça crée des films qui ont, en quelque part, plus d'enjeux matériels, parce que c'est un cinéma matériel, là, si on veut, le blockbuster, je pense, puis le cinéma d'action, précisément. Pis je pense qu'il y a une dématérialisation tellement totale du processus de tournage qui se transforme en un cinéma où... Je veux dire, on regarde pas la situation en se disant comment il va réussir à faire ça. On sait déjà que c'est possible parce que les lois de la physique s'appliquent plus à rien dans ce cinéma-là.
Donc, c'est un impact presque idéologique, quoi, ou un impact physique. C'est-à-dire, on détruit, on se fiche un peu de l'effet émotif que ça peut avoir sur les spectateurs.
Ben, je sais pas. Je trouve que c'est des films... C'est un film qui a énormément de défauts, mais par exemple, Batman vs. Superman, qui est comme... bordélique, d'une manière presque... C'est presque une esthétique rendue là pour moi. Là. Mais je veux dire, c'est un film qui commence où on repasse à travers la scène de destruction de Man of Steel. Mais cette fois-ci, on la voit à échelle humaine. C'est Batman qui est introduit en étant comme un peu l'humain qui voit d'une autre manière pendant que les deux dieux se battent dans le ciel. Lui, ben, il voit la destruction à une autre échelle. Je pense que quand Zack Snyder fait ça, il est quand même conscient de ce que cette destruction-là peut représenter. Puis je pense pas que c'est gratuit. Je pense que oui, il y a une désensibilisation, mais qui est généralisée dans ce genre de cinéma-là, parce qu'à un moment donné, c'est...
Mais on a l'impression qu'il y a un lien presque inhérent, puis je vais peut-être trop loin en disant ça, mais entre le terrorisme et le blockbuster, dans le sens où à la fois on voit les blockbusters qui se sont inspirés de ces images terribles du 11 septembre, mais on voit aussi les images de propagande de Daesh qui s'inspirent de Pearl Harbor, des films de Michael Bay pour vendre leur message, etc. Donc cette idée de destruction, j'ai l'impression, est au cœur du projet des blockbusters, puis c'est peut-être ce qui essouffle les choses aujourd'hui.
Mais ça existait déjà avant, hein, parce que si on prend un film comme Blue Thunder, je pense, c'est ça le titre, Blue Thunder, des années 80? Déjà dans ce film-là, à la fin, là, quand tout le monde, les jets se couraient après, tout ça, tous les gratte-ciels de Los Angeles explosaient. Puis déjà, à cette époque-là, je regardais ça, puis je me disais, mais comment on peut concevoir un film dans lequel les enjeux humains des protagonistes sont supposés nous interpeller et qu'en même temps, on nous montre la destruction de gratte-ciel où il y a des centaines et des centaines de personnes qui viennent de mourir sous nos yeux. Puis ça, c'est pas grave, on n'en parle pas, ça n'a aucune importance, c'est complètement anecdotique. Mais ça a toujours existé. Je veux dire, même dans les films de science-fiction des années 50 où il y avait la peur du péril atomique, puis c'était vraiment à l'époque de la guerre froide, c'était la même chose. Tous les monuments américains ont été détruits dans ces films-là à l'échelle des effets spéciaux de cette époque-là. Mais Independence Day, c'est War of the Worlds. Donc, ça a toujours existé pour moi. C'est certain que le traumatisme de septembre 2001 vient jouer là-dedans. Puis ça influe aussi sur l'esthétique, la façon de tourner. Mais je veux dire, même dans Superman, si tu regardes le Superman de Richard Lester, le deuxième, ils démolissent Times Square complètement, tu sais. Mais bon, c'est fait avec beaucoup plus d'humour, là. Il n'y avait pas le même... Mais, encore une fois, c'est le même concept, c'est le même principe. Puis c'est le fait maintenant... Bon, évidemment, oui, il y a septembre 2001 qui vient ajouter au trauma collectif incroyable, mais ça, je pense qu'avec le temps... Ça va diminuer, on y pensera plus, tu sais. Mais encore une fois, moi, je reviens sur... C'est des effets spéciaux, parce que les effets spéciaux permettent des destructions tellement spectaculaires, tellement réalistes, Et c'est un cinéma qui s'adresse beaucoup aux adolescents, donc c'est un public qui est constamment renouvelé. Donc, on refait toujours le même film parce que le public est renouvelé. Il y a une nouvelle génération à tous les 10 ans qui arrive et on refait Star Wars pour eux, mais avec de plus beaux effets spéciaux. On refait Jurassic Park, on appelle ça Jurassic World, mais c'est le même film, avec des effets spéciaux encore plus spectaculaires. Et on va le refaire encore dans 10 ans, puis on va le refaire dans 20 ans. C'est les mêmes recettes qui sont répétées constamment. Mm-hmm. Le blockbuster ne se réinvente pas. Il fait simplement évoluer de façon technologique. Mais les recettes demeurent les mêmes, pour moi, en tout cas.
C'est... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cette idée que le blockbuster ne se réinvente pas de façon intrinsèque, presque? C'est dans sa nature de ne pas se réinventer.
Bien, je pense qu'il se transforme en gardant les mêmes fondements, si on veut. Mais ce que je trouve intéressant, puis je trouve que les deux exemples que tu as pris, Jurassic World et le dernier Star Wars, ils amènent quelque chose qui est propre, je trouve, au blockbuster actuel des dernières années, puis c'est l'aspect nostalgique. Je suis d'accord avec toi que... Le public se renouvelle, ça s'adresse aux adolescents, mais là, plus que jamais, j'ai l'impression que le blockbuster s'adresse à des gens qui veulent revivre des films qu'ils ont déjà vus. Je veux dire, Jurassic World, il y a un fétichisme.
Surtout le dernier Star Wars.
Le dernier Star Wars, c'est hallucinant.
C'est spectaculaire.
Mais Jurassic World aussi, c'est quand même fou à quel point les personnages, c'est tous des fans, c'est comme des fans du parc initial de la même manière. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans. Puis même les Ninja Turtles, je veux dire, je comprends pas... les films des Ninja Turtles, je veux dire, le public cible de tout ça, c'est des gens qui ont trippé sur les Ninja Turtles quand il y avait 8-9 ans, je veux dire,
c'est d'ailleurs intéressant de constater que quand ils essaient d'arriver avec un concept qui est complètement nouveau, mais nouveau entre guillemets, là, comme Gods of Egypt récemment, ils se plantent complètement.
C'est vrai.
Et pourtant, je veux dire, c'est un film qui est aussi spectaculaire que les autres, et qui, mais ça s'est complètement planté parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de dialogue entre ce film-là puis l'imaginaire collectif des jeunes, puis il y a quelque chose qui ne résonne pas. Là.
Bien, alors là, on commence déjà à cerner un petit peu ce que c'est qu'un blockbuster. On a cette idée de destruction, cet effet de reconnaissance qu'on va chercher chez le public. On a ces éléments marketing qui le définissent, qu'on le veuille ou pas. C'est le nombre de salles dans lesquelles ils sortent, c'est le budget qui est alloué, c'est etc. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est vous, en tant que cinéphile, qu'est-ce que vous attendez d'un blockbuster? C'est quoi un bon blockbuster, Pierre?
Moi, je regardais... Si on parle de blockbuster en termes d'un film qui a un impact, qui a un succès important, en 2016, je regardais les résultats du box-office depuis le début de l'année. Puis c'est essentiellement deux genres. C'est les films de super-héros et c'est les films à la Pixar. Mm. C'est les seuls films qui vont chercher vraiment des box-office massifs.
Conséquent, oui.
Moi, j'en ai vu... j'ai une fille de 13 ans, donc j'en ai vu pas mal de films à la Pixar depuis une dizaine d'années. J'y trouve la plupart extraordinaires. J'y trouve vraiment... On vit dans un âge, je trouve, exceptionnel au niveau de l'animation. Au niveau des films de super-héros, c'est vraiment comme ce que je recherche. Moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième film de Captain America, par exemple. Si on parle de... contexte un peu sociopolitique. Je trouve qu'il y avait quelque chose d'un peu plus profond dans ce film-là qu'on ne retrouvait pas, par exemple, dans... J'aimais l'espèce d'histoire un peu politique.
Ça fait ça aussi beaucoup en essayant de recycler comme ça des... Mais est-ce que c'est ce qu'on attend dans Blockbuster, qu'il ait une dimension sociopolitique, qu'on aille au-delà du divertissement ou pas?
Ben, moi, personnellement, quand je vais voir un Blockbuster, je me rends compte que ceux qui m'excite le plus en tant que spectateur, c'est ceux où je retrouve un peu l'impression d'être un enfant de 8 ans qui va au cinéma pour la première fois. Je pense que dans les films de super-héros, celui qui a pour moi le plus réussi à faire ça, c'est Guardians of the Galaxy de James Gunn. Je trouve que c'est un film qui a une espèce d'enthousiasme naïf du cinéma qu'on peut faire. Je pense à Super 8 de J.J. Abrams, qui est un film que j'aime beaucoup, où j'ai l'impression que lui, en tant que réalisateur, il retrouve un peu son espèce d'enthousiasme de jeune après ça. C'est sûr que des films comme Winter Soldier, le deuxième Captain America, je trouve que c'est intéressant. Je trouve toujours que c'est un peu garoché étrangement dans les films de Marvel. Puis Civil War, c'est vraiment un exemple de ça. Il y a une volonté d'avoir un discours sociopolitique, puis on dirait que c'est tellement rendu garoché dans des intrigues qui sont en train de préparer le terrain pour 10 autres films, puis de gérer les ficelles de 10 films qui sont venus avant, que ça devient un peu, l'intrigue sociopolitique de ce film-là, c'est le maillon faible du film, en quelque part. Puis je trouve que ça, c'est un peu la Christopher Nolanification du blockbuster qui reste un...
On veut être moins, sérieux.
Tout le monde veut vraiment faire des films sérieux. Puis il y a une seule manière de faire un film sérieux. Puis c'est des discours en voix off à pu finir avec des grosses phrases que les gens vont pouvoir citer. Ou je sais, t'sais, je veux dire, moi, je me rappelle quand Terminator Salvation était sorti, j'avais l'impression que Christian Bale jouait une caricature des rôles qu'il y a dans les films de Christopher Nolan. J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, je sais plus si c'est sorti quand ce film-là, mais à ce moment-là particulièrement, puis là, je pense qu'on... Justement, on commence à s'en éloigner lentement, mais sûrement. Mais il y avait comme une espèce de volonté de faire du blockbuster un genre hyper sérieux. Qui
un genre
vraiment,
noble. Ouais. Peut-être l'anoblir d'une certaine façon.
Mais tu sais, c'est comme... C'est pas... Je trouve ça paradoxal parce que c'est pas dans une fausse... Un faux sérieux prétentieux que ce genre-là trouve sa noblesse autant que dans son espèce de naïveté, dans son espèce de pureté. Comme, je veux dire, à chaque fois qu'on voit des films comme Jaws ou des films comme Close Encounter of the Third Kind, je veux dire, je pense que c'est pas juste parce qu'on les a vus quand on avait 8 ans qu'on trippe comme un enfant de 8 ans en les voyant, ces films-là. Je pense qu'ils appellent l'enfant.
Un enchantement, une espèce d'innocence, quelque chose comme ça.
La mise en... Tu sais, puis je veux dire, ça, c'est quelque chose dans les films des années 80. Il y avait les enfants étaient mis en scène différemment, beaucoup plus que maintenant, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'était des films qui étaient vraiment conscients du fait qu'en s'adressant aux enfants, la meilleure manière de les toucher, c'était justement, tu parlais d'E.T., mais tu sais, je pense pas que c'est juste bassement mercantile de faire qu'ils jouent avec des jouets de Star Wars. C'est aussi parce qu'un enfant, à l'époque où E.T. sort, c'est un enfant qui a des jouets de Star Wars dans sa chambre. Puis je veux dire...
Ça a instauré une tradition, mais qui, dans le film, était tout à fait logique. Puis on sait à quel point, de toute façon, Spielberg et Lucas étaient amis. C'était des clins d'œil aussi, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu plus cynique. Il y avait une innocence, je pense, dans l'utilisation des produits dérivés dans E.T. qui n'est plus là aujourd'hui tout à fait. Martin, pour toi, le bon blockbuster, c'est quoi? Est-ce que ça doit avoir un fond ou est-ce que du pur divertissement, c'est ce qu'on attend d'un blockbuster?
Moi, ce que je reproche à ces films-là présentement, c'est leur côté désincarné du point de vue de l'humain. Mm-hmm. Je trouve qu'on parlait de Close Encounters tantôt, puis de Star Wars. Ce qui différencie, je trouve, les films de cette époque-là de ceux d'aujourd'hui, c'est que je trouve que à cette époque-là, puis je veux pas, c'est pas une question de nostalgie mal placée, mais on dirait qu'à cette époque-là, on croyait plus, les personnages nous paraissaient plus réels, plus incarnés. Maintenant, quand je regarde tous ces films-là, je veux dire, premièrement, la moitié du temps, Spider-Man, c'est du CGI, c'est même pas le vrai acteur qui est à l'écran. J'y crois plus. J'y crois plus parce que j'ai l'impression de regarder des films d'animation. Puis des films d'animation, j'ai rien contre, là, mais c'est comme on dirait que là, il y a comme une confusion esthétique qui s'est développée, qui fait que c'est tellement désincarné que je ne crois plus aux dilemmes, je crois plus aux conflits, je crois plus aux enjeux émotifs, psychologiques, parce que pour moi, c'est devenu trop artificiel, c'est devenu complètement désincarné. Mm-hmm. Puis je sais pas si ça va jamais revenir, parce que je me rends compte que les adolescents n'ont pas l'air... J'ai deux ados qui se gavent de ces films-là. Puis quand j'ai cette conversation-là avec eux, je me rends compte que eux, ça leur manque pas.
Ça les intéresse pas?
Non. Mais c'est pas que ça les intéresse pas, mais ils réalisent pas qu'il y a cette absence-là dans ce qu'ils regardent.
En même temps, les deux films qui ont trouvé grâce à la fois aux yeux du public et de la critique l'été dernier, c'était Mad Max et c'était Mission Impossible, qui étaient films qui allaient dans ce sens-là
voilà,
quand même.
Mais Mad Max, pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que pour moi, quand j'ai vu Mad Max, je me suis dit, ah, OK, on est encore capable de faire un gros blockbuster d'action où le facteur humain et tangible. Uh-huh. Et on y croit. Et il y avait, bon, puis en plus, il y avait un discours politique dans le film, il y avait un discours féministe, toutes choses qu'on retrouve pas nécessairement dans le blockbuster hollywoodien là, des studios comme on le voit présentement. Donc, il y avait toutes des couches comme ça. C'était comme... Mais pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle.
Et pour vous, Mad Max l'an dernier, ou Mission Impossible même, qui était quand même aussi dans cette logique de ce qui arrive, arrive d'abord et avant tout au personnage avant d'arriver à la Terre entière. Est-ce que pour vous, c'était des exceptions qui confirment la règle ou une tendance qu'on risque de voir quand même s'établir dans les prochaines années?
Ben moi, j'ai vraiment pas aimé le Mission Impossible. Je veux dire, puis quand tu parles de ça arrive à des humains, moi, quand je regarde un film avec Tom Cruise, j'ai l'impression que ça arrive pas à un humain rendu là. Dans son interprétation, pour moi, est rendue tellement machinale, surtout dans ce film-là. Puis je veux dire, je pense que c'est rendu tellement un gag que, je veux dire, dans Edge of Tomorrow, c'est rendu un punch. Je veux dire, c'est comme un. Il y a quelque chose d'humoristique dans la manière dont Tom Cruise joue. C'est, en tout cas. Mais par contre, oui, je trouve que effectivement Fury Road, c'était un film qui était un peu.
À part, peut-être.
Mais je veux dire, c'est comme un film qui est à la limite. Pas de son époque, je veux dire, c'est ça qui est fou. Là. C'est un peu un film anachronique, puis je veux dire, c'est George Miller qui débarque un peu, tu sais, puis qui fait des films comme George Miller fait des films depuis toujours, je veux dire, c'est pas... Puis c'est un film qui est un peu sorti de la logique de studio, j'ai l'impression.
Mais ce qui est encourageant, c'est que ça
peut arriver. Oui, absolument. Puis je pense que les gens ils veulent voir des films comme ça. Puis je pense que ces films-là peuvent cohabiter avec les espèces de spectacles numériques un peu étranges qui vont trouver lentement, mais sûrement... Je pense qu'il y a quelque chose dans ce cinéma-là qui est très nouveau, puis les gens essayent d'explorer des formes. Puis je veux dire, moi, je trouve que Michael Bay, qui est un cinéaste que je peux détester, ça m'intéresse toujours de voir des films de Michael Bay parce que je trouve que dans certains de ses films, il y a des séquences qui sont tournées d'une manière vraiment intéressante. Mm-hmm. Puis qui sont tournées surtout d'une manière qui est propre au numérique. Puis, oui. Je veux dire, je pense que... moi, il y a une époque où j'étais plus capable de regarder des films, des blockbusters, parce que le numérique, j'avais même plus l'impression, effectivement, de regarder des films. J'avais l'impression de regarder des trucs d'animation... Mais j'ai l'impression que petit à petit, puis un autre cinéaste, puis je veux dire, le Vulgar Autourism a beaucoup tourné autour de ces cinéastes-là, mais même un gars comme Paul W.S. Anderson, qui est un autre tâcheron.
Alors, cette théorie du Vulgar Autourism, c'est cette idée qu'on peut être un auteur, mais avoir un penchant pour le cinéma plus populaire, grosso modo.
Oui, en gros, mais il y a aussi tout un discours sur. Ces gens-là, des gars comme Michael Bay, justement, puis Paul W.S. Anderson, prennent des influences. Leurs prédécesseurs, c'est des gars comme Tony Scott, qui déjà étaient considérés comme des cinéastes impurs à leur époque, ou McTiernan, mais je trouve que le lien avec McTiernan est plus dur à faire dans le cas de ces cinéastes-là. Mais, je veux dire, le dernier Resident Evil de Paul W.S. Anderson, c'est un film qu'on regarde... Si on le regarde en s'attendant à un film... au sens classique du terme, c'est bordélique puis c'est déplaisant. Mais à partir du moment où on comprend que de toute façon, il veut faire une espèce d'adaptation de l'esthétique puis de la logique du jeu vidéo puis que c'est totalement assumé, il y a quand même quelque chose qui se passe qui peut nous déplaire puis qui c'est un peu normal que ça nous déplaise. Moi, je veux dire, je ne suis pas le plus gros joueur de jeux vidéo contemporain, fait que ça ne s'adresse pas à moi, ces films-là. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent y trouver des référents esthétiques. Mm-hmm. Je veux dire, on peut pas faire des films, même si on voudrait qu'ils se fassent des films comme ils s'en faisaient dans les années 70, on peut plus nécessairement faire avec les moyens de 2015 des films comme on les faisait dans les années 70. Ou en tout cas, il y a des gens qui essayent de faire autrement des blockbusters.
C'est drôle que tu abordes ça parce que je m'attendais à ce que ça arrive plus tôt dans la discussion, mais il y a beaucoup de gens qui ont mis ce déclin du blockbuster, qu'il soit idéologique, technique, peu importe, sur le dos du jeu vidéo. Comme si c'était d'une certaine façon la faute du jeu vidéo qui nous avait habitués à une déréalisation, à justement à ce que les humains n'aient plus tant d'importance que ça. Est-ce que le jeu vidéo, pour vous, a tué le blockbuster?
Ben moi, je pense que c'est un ensemble de facteurs dans le sens que le public est exposé maintenant à tellement une vaste offre qui, pour revenir, je veux dire, je suis totalement d'accord avec l'aspect désincarné des films maintenant que souvent, ça, moi non plus, ça me touche plus du tout. La plupart des films, puis on mentionnait Guardians of the Galaxy, pour moi, est un exemple justement de... Tu sais, tu dis « je suis rendu trop vieux ». Alors là, tu vois ce film-là, puis tu dis « ah non, c'est encore possible de recréer la magie », parce que c'est un beau film, évidemment, avec des beaux effets spéciaux, mais il y avait vraiment une profondeur, les personnages, ce qu'ils vivaient, ça te touchait. Puis on parlait de Star Wars tantôt. Moi, je regardais la bande-annonce du premier Star Wars. Là aussi, on se dit, OK, c'est sur plusieurs décennies là, que c'est la production de tous ces films-là. Puis franchement, non, le premier et le deuxième avaient vraiment quelque chose de spécial qu'on retrouvait. Déjà le troisième, on retrouvait plus la même profondeur. Là, on était dans, OK, qu'est-ce qu'on fait pour vendre des oursons en peluche? La dérive était déjà là en 83, mais c'est encore possible. Moi, je pense qu'il y a encore des bons blockbusters. Il y en a, la plupart sont, oui, désincarnés parce que, oui, on a un public qui... En même temps, on veut le vendre à travers le monde. Il faut que ça plaise maintenant de plus en plus au public chinois, entre autres.
C'est vrai.
Ça devient tellement important. Donc, moi, par exemple, pour le festival, on a commencé à présenter en 96 des films de Hong Kong qui étaient faits pour l'Asie dans son ensemble, un public hongkongais qui est beaucoup plus sophistiqué au niveau d'éducation, beaucoup plus élevé que la Chine en général. Et là, on voit des gros blockbusters faits en Chine, mais de toute évidence, ils sont faits pour un public qui a un niveau d'éducation qui n'est pas très élevé, ce qui fait que les films sont hyper simples, on n'y va pas dans la profondeur aucunement. Donc ça, je pense que ça a un gros impact sur comment on décide, OK, on fait un film qui est, mettons, un Fast and the Furious. On sait qu'il faut que ça soit, disons, basique pour que tout le monde sur la planète, il y a des jeunes hommes de 13 à 18 ans qui vont vouloir aller voir des... que tu sois indien ou chinois, ou donc ça fonctionne. Et il y a des gros blockbusters, comme on parlait de Guardians ou de certains films de Marvel, le dernier Deadpool, par exemple, qui est certainement pas exportable pour certains publics. Je sais pas si en Chine, on apprécierait, par exemple, ce type d'humour-là, mais... Moi, j'ai trouvé ça quand même très bien et ça transcendait quand même le film cliché, disons, très, très simple, qui ne donne pas comme défi de faire quelque chose de plus sophistiqué, de peur qu'on perde trop de public en chemin parce que simplement pas capable d'apprécier, là.
Mm-hmm. Ce qui est étonnant quand on parle de blockbuster aussi, c'est la variété des choses qu'on arrive à regrouper sous ce terme-là. On parle depuis 40 minutes environ et on est passé du cinéma d'animation à John McTiernan, au film de super-héros, à E.T. Enfin, on est capable de mettre beaucoup, beaucoup de choses sous ce terme-là qui, au départ, vient quand même de l'aviation militaire britannique. C'était une façon de détruire un bloc entier d'immeubles. Donc, effectivement, dès le départ, c'était lié à cette idée de destruction. Est-ce que ça vous semble un terme approprié? Est-ce que ça existe, le genre du blockbuster?
Moi, je dirais que non. Je pense que ça n'existe pas. C'est un peu comme quand on parle de film culte. T'sais, c'est une définition floue, vague, très élastique, qui s'applique maintenant à n'importe quoi. Même quand on parle de classique du cinéma. T'sais, je veux dire, c'est quoi un classique?
C'est les Hammer autant que Orson Welles.
Voilà, c'est donc un blockbuster. Moi, pour moi, Gone with the Wind, c'est un blockbuster. T'sais, je veux dire, Ben-Hur, dans les années 50, c'est un blockbuster. Pour moi, un blockbuster, c'est un film qui est conçu pour s'adresser au maximum de gens possibles à travers le monde et qui bénéficie d'un gros budget et d'un immense lancement médiatique, puis qui tasse tout sur son chemin, tu sais.
Mm-hmm.
Donc, mais ça, c'est une définition. Mais Le Sixième Sens, par exemple, qui est un petit film, je veux dire, comparé à un blockbuster, c'est pratiquement un film intimiste, c'est devenu un blockbuster
par la force des choses,
parce que ça a été un immense succès. Mais pourtant, ça se compare pas à un film qui coûte 200 millions puis où on voit Manhattan se faire détruire de tout bord, de tout côté, tu sais. Donc, c'est une notion un peu floue, ouais.
Je pense que l'aspect blockbuster, comme tu décrivais, c'est comme une conquête. C'est comme on prévoit d'avance que le film va avoir un succès. Mais tu peux avoir ce qu'on dit en bon français, un sleeper hit.
Tout à fait. Ouais.
Donc, lui, il n'est pas prévu au départ.
Mais qui devient un blockbuster.
C'est ça. Tu sais, je pense à le film « My Big Fat Greek Wedding ». C'est vraiment une petite comédie qu'on s'attendait sûrement à un succès moyen. Puis finalement, ça a fait un des plus grands succès de l'année. On vient juste en sortir une suite qui, elle, a fait à peu près 25 % du box-office de l'original. Home Alone, par exemple, qui est vraiment des succès extraordinaires.
Ça, c'est sans parler des soi-disant blockbuster, mais qui s'échoue complètement au box-office. Alors, c'est un film comme Gods of Egypt, dont je parlais tantôt, est-ce qu'on peut encore dire que c'est un blockbuster? Puisque, je veux dire, c'est complètement, ça s'est complètement dessoufflé au box-office. Donc,
l'intention de détruire les blocs était là, mais
ça n'a pas fonctionné. Oui, mais c'est ça.
Mais c'est intéressant parce que juste, je pense que il y a deux fins de semaine, je veux dire, il y avait Warcraft d'un bord, puis il y avait The Conjuring 2, puis c'est The Conjuring 2 qui a été le plus gros succès au box-office. Puis, je veux dire, moi, je trouve que The Conjuring... Premièrement, je trouve que James Wan, c'est un cinéaste d'horreur vraiment intéressant. Puis c'en est un, c'est lui qui a réalisé d'ailleurs le dernier Fast and the Furious.
Tout à fait.
Aussi. C'est comme un gars qui peut sauter du... Mais c'est intéressant de voir que le film qui était censé être le blockbuster de la fin de semaine s'est fait donner le pion par un film de genre un petit peu plus modeste, même si c'est quand même une suite, etc. Et puis le cas Warcraft est aussi intéressant parce que c'est un flop en Amérique du Nord, mais c'est un des plus gros hits de l'année déjà à travers le monde à cause de son succès en Chine. Puis même si ça a été un flop en Amérique du Nord, ça y est, on a un film qui est un flop en Amérique du Nord qui va se retrouver à avoir une suite parce que son succès international justifie qu'il y ait une suite qui se produise. Là. Fait que c'est il y a comme une fin. On a eu une fin de semaine représentative de plein de choses.
Oui, bien, aussi, il n'y a pas si longtemps, peut-être 15-20 ans, un film faisait ses recettes globales. Les deux tiers, c'était en Amérique du Nord.
C'est vrai, ça a
maintenant,
changé
c'est
aussi.
Pas rare que c'est 25 % l'Amérique du Nord, 75 % des films que nous, on déclare comme étant des bids, finalement, c'est pas si mal que ça. Quoi qu'il faut dire qu'un film en Chine, la cote que les studios vont les récupérer est beaucoup plus petite qu'en Amérique du Nord. Donc, oui, un film peut faire 200-300 millions en Chine, mais ce qu'ils vont aller récupérer, c'est peut-être 25 % plutôt que 50-60 %. Donc, il faut quand même prendre ça en considération.
Tout à fait. On parlait des suites beaucoup. Je ne sais pas si c'est une des plaies d'Égypte, mais c'est assurément une des plaies du blockbuster. Juste quand on regarde ce qui s'en vient en 2016, on a que des suites ou des franchises, que ce soit Independence Day, Ghostbusters, Star Trek, Rogue One, enfin bref, on navigue toujours dans les mêmes eaux et on se demande un peu, est-ce que le vrai problème au fond, c'est pas celui d'un manque d'audace de la part des studios, notamment évidemment hollywoodiens, qui n'arrivent plus, parce qu'à un moment donné, quand Spielberg arrive, c'est un jeune homme, personne ne le connaît, et on lui donne un peu les clés de la maison, et il fait ce qu'il veut, et ça marche. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on demande à ces jeunes cinéastes qui se font remarquer avec des hits indépendants, on leur donne les clés d'un bateau, mais d'un bateau qui existe déjà, et on ne veut surtout pas qu'ils le fassent aller sur des mers qui ne sont pas connues. Est-ce que
ce qui arrive avec les studios, là, ce qu'il faut comprendre qui a changé dans les peut-être 10-15 dernières années, progressivement, mais de façon quand même assez radicale, c'est qu'il y a une certaine époque, comme si on retourne dans les années 70, où les studios pouvaient produire 20-30 films par année. Et sur ce lot-là, il y avait quelques succès, quelques films plus modestes. Et au bout de l'année, il y avait quand même un profit au bout du compte. Mais les studios ont grandi parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une industrie. Hein? On parle de l'industrie du film à Hollywood, puis c'est vraiment une industrie, c'est des usines. Aujourd'hui, avec de la façon que le marché a évolué, les studios, ça ne vaut plus la peine pour eux d'investir 20 ou 30 millions dans un film qui, au bout du compte, va faire 10, 15... 30 millions de profits. Pour nous, on regarde ça et on se dit, mais 30 millions de profits, c'est énorme. Mais pour eux, ça ne suffit plus. Ce n'est plus suffisant pour faire rouler leur machine. Ils ont besoin de produire des films de 200 millions qui vont rapporter 1,5 milliard. C'est ça qui fait qu'ils vont continuer. Donc, c'est comme une espèce d'atrophie au niveau de la production. Et ils ne peuvent plus se permettre d'investir. En fait, c'est même plus qu'ils ne peuvent plus se permettre, c'est que c'est pas intéressant pour eux. C'est sans intérêt pour eux d'investir dans des petits films. L'argent est dans les blockbusters et ils préfèrent tourner seulement 10 blockbusters dans une année, qu'il y en ait peut-être 7 ou 8 là-dedans qui vont aller chercher du profit, puis c'est avec ça qu'ils font leur argent. Donc maintenant, il y a comme une séparation entre les studios hollywoodiens qui ne carburent qu'au blockbuster, et les autres studios indépendants qui continuent à faire du cinéma indépendant. Mm-hmm. Et à travers tout ça, il y a la télévision qui a complètement fait éclater, mais de façon spectaculaire, la façon dont les gens consomment leur fiction. Mm-hmm. Parce que maintenant, quand on regarde Games of Thrones, je veux dire, pour moi, c'est du blockbuster, mais c'est du blockbuster conçu pour la télévision. HBO produit des séries qui sont l'équivalent de ce que les studios hollywoodiens avaient l'audace de produire dans les années 70. T'sais. Les French Connection, qui étaient produits par les studios dans les années 70, ou les Godfather, ou ces genres de films-là, ben c'est HBO maintenant qui les produit. Alors, tout le système a changé.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous, cette audace-là qu'on recherche, elle a migré dans les séries télé?
Oui, moi, je suis d'accord. Puis, ben, pour aussi répondre, quand tu parlais des suites, moi, je sais pas, à ma mémoire, aussi longtemps je peux me rappeler, c'est quelque chose qui... C'est un questionnement qu'on a eu là, par rapport... Mais pourquoi toujours des suites?
Mais même dans les années
suites?
30, hein?
Ouais.
Je veux dire, les films d'horreur de Universal, c'était des films de série.
Oui,
je veux dire, The Bride of Frankenstein, en 1935, c'était la suite de Frankenstein. Mais c'est devenu un des plus beaux films d'horreur de l'histoire du cinéma. Mais au départ, c'était une suite. C'était
aujourd'hui,
une production mercantile.
Ce qui s'est rajouté quand même aujourd'hui, c'est non seulement cette idée de suite, mais de croisement entre les univers aussi. Bon, on voit Batman versus Superman, on en a vu comme ça plein.
Mais à l'époque aussi, ils ont mélangé Frankenstein, Dracula, The Wolfman. Ça existait à une autre échelle, mais ça a toujours fait partie du cinéma américain, toujours, toujours.
Mais tu sais, en ce moment, c'est comme je disais, les deux genres qui fonctionnent, c'est les films d'animation pour enfants puis les films de super-héros. Puis au fond, ces deux genres-là, le film de super-héros, il est hyper spectaculaire, donc tu as vraiment une grosse plus-value à aller le voir sur écran géant. Mm-hmm. Puis le film pour, on peut dire, la famille... Tout le monde qui a des enfants savent que c'est un moment magique qu'on veut vivre avec nos enfants. Puis on est prêt, on veut pas attendre 6 mois.
Non,
on veut être avec notre enfant puis vivre cette expérience-là. Donc là, il y a quelque chose d'unique qui fait que... Et la qualité est là aussi. Mais là, à part de ça, moi, je regarde plusieurs types de films. Tu sais, je pense à un film comme Nice Guys, qui est sorti récemment avec Ryan Gosling puis Russell Crowe. Moi, je regardais la bande-annonce, je me disais, waouh, ça va être un gros succès. Tu sais, tout est là, c'est drôle, c'est edgy, il y a tout là-dedans. Le même film, il y a 20 ans, aurait fait, je pense, 200 millions au box-office.
Ouais, aujourd'hui, ça...
Maintenant,
moi,
ça arrive à 60, 70, puis les films avec Melissa McCarthy qui sont hyper... C'est des films de formule que tu fais pour aller chercher ce que Eddie Murphy réussissait à aller chercher, les plus gros hits de l'année. Maintenant, ces genres-là, je sais pas, je pense que les gens, comme tu dis, ils le retrouvent à la
télé. Mais
le
problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, si le film fait pas un tabac le premier week-end, c'est terminé.
C'est vrai qu'il y a ça aussi.
Alors que dans les années 70, le film prenait l'affiche dans beaucoup moins de salles, mais il restait à l'affiche pendant des mois.
Oui.
On calculait le box-office sur une très, très longue durée. Je disais, Jaws, ça a pris l'affiche au mois de juin, mais je veux dire, ça jouait encore en octobre. Aujourd'hui...
Ça existe plus, ce modèle-là.
Non, il y a une tyrannie de la première fin de semaine.
Ben oui,
moi, j'avais... En fait, quand John Landis était venu à Fantasia, je me rappelle, j'avais fait une entrevue avec lui, puis John Landis disait qu'il était sur le plateau de tournage de Spider-Man 2 avec Sam Raimi, tu sais, puis il disait, puis comment ça se passe, tu sais, puis Sam Raimi lui disait, tu sais, je sais même plus dans quel genre de business je suis, parce que ce qui les intéresse, c'est même pas tant le profit... Le profit... L'argent... Du box-office, c'est pas là que le gros argent se fait. C'est dans les boosts que l'action de la compagnie mère fait quand il y a une bonne performance.
Oui.
Tu sais, je veux dire, c'est complètement... l'industrie est comme délocalisée.
Faut pas oublier que tous les studios hollywoodiens sont cotés à la bourse. Hein.
Ouais. Ça, c'est évident, oui.
Alors, c'est sûr. Puis je veux dire, puis l'action de Walt Disney monte et descend en fonction du succès d'un film. Alors, c'est très vrai.
Mais c'est vrai que je pense qu'avant, il y avait une culture du bouche-à-oreille. Puis justement, encore une fois, John Landis, American Werewolf in London, c'est un film qui n'a pas eu pas tant de succès que ça à sa première fin de semaine. Lentement, mais sûrement, fini par construire une réputation. C'est vrai que ça n'existe plus, des films comme ça. Puis je pense que Nice Guys, c'est un exemple. C'est un film vraiment qui fonctionne bien puis qui est drôle, mais c'est vraiment un film des années 90. Puis Shane Black, c'est un gars des années 90. C'est un gars qui écrivait, tu sais, Last Boy Scout, Lethal Weapon, puis il revient avec... Mais c'est ça, je pense que c'est des films qui vont avoir une vie sur Netflix, mais c'est plus des films qui vont chercher leur succès en salle. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a encore une demande pour ces films-là, puis je pense qu'à un certain point, ils vont pas totalement disparaître, mais ils vont avoir de plus en plus de misère à se tailler une place en salle.
C'est-à-dire que c'est ces fameux films de l'entre-deux, quoi. On a les petits hits indépendants qui, eux, vont toujours réussir à trouver un peu leur public. Les méga-spectacles, c'est un peu la prophétie de Spielberg et de Lucas qui disaient que bientôt, le cinéma, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va aller au cinéma comme on va à la finale du Super Bowl pour voir un truc...
Mais Lucas et Spielberg ont aussi annoncé, il me semble, il y a 2-3 ans, la fin des blockbusters. Ils disaient que c'était pour être la mort, justement, à cause de l'effet de saturation. Si c'est juste des spectacles, des faits spéciaux, à un moment donné...
Mais c'est la question, en fait, que j'ai envie de vous poser aussi. Est-ce qu'on est face à une crise qui est esthétique, qui est cinématographique, narrative, ou c'est vraiment purement et simplement une crise commerciale? C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment donné où la saturation du marché fait que ces films-là ont un avenir à plus ou moins court terme.
Ben moi, je trouve ça drôle parce que tu as comme A ou B, mais il n'y a pas C, un peu de ces deux réponses.
Un peu de
mais
ces
je pense
deux.
Que c'est un peu de ces deux réponses, la bonne réponse. Là, je pense que ça fait aucun doute qu'il y a un épuisement esthétique, mais je pense qu'il va se renouveler. Mais c'est sûr qu'il y a aussi, comme modèle commercial, il y a quelque chose qui fonctionne de moins en moins. Puis je pense que c'est les gens dépensent un certain montant d'argent en divertissement, entre guillemets. Là. Puis je veux dire, ils achètent des jeux vidéo, il y a quand même... ils lisent du comic book, ils lisent, je veux dire, il y a cet argent de divertissement-là. Puis je veux dire, leur seule solution pour... Excusez, ça m'a...
C'est la pluie qui tombe.
On
fait toute cette émission, je tiens à vous le préciser, chers auditeurs, sous la pluie. Merci vraiment à tous les trois. C'est très courageux de votre part. Donc, crise commerciale ou esthétique, un peu des deux.
Mais puis l'idée de gonfler les prix de billets de cinéma avec le 3D, avec des sièges qui shake, c'est n'importe quoi. Je veux dire, ça devrait pas être. Je veux dire, c'est cher le cinéma.
Oui, c'est cher.
C'est un peu fou, là.
On est rendu à quasiment 15 $ un billet pour un soir, mettons.
Exactement, là, c'est quand même une date qui coûte cher, là, mettons, là, deux personnes au cinéma. Là. C'est pas. Je pense que ça aussi, c'est un problème. Je sais pas si c'est pour pallier. Il y a de moins en moins de gens dans les salles, fait qu'on va booster les prix, mais je pense qu'à un certain point, il va peut-être falloir se poser une question. Je veux dire, tu peux pas te payer un billet de cinéma avec une heure de travail au salaire minimum. Je veux dire, ça, c'est quand même un peu problématique, là, je pense.
Mm-hmm. Pierre, est-ce que, à tes yeux, c'est une crise simplement industrielle ou une vraie crise esthétique, narrative?
Ben, je sais pas si j'utiliserais le mot crise. Je pense que c'est une évolution. Je pense qu'on est constamment en évolution depuis l'invention du cinéma. Puis c'est certain qu'en ce moment, c'est l'offre et la demande. Mais l'offre... L'année passée, j'écoutais quelqu'un qui disait qu'il s'est produit 400 séries de télé aux États-Unis, dont un certain nombre sont vraiment d'excellente qualité, je dirais supérieure à ce qu'on voit dans la plupart des films de divertissement. Donc, les gens... Moi, je pense à ma fille qui a 13 ans, puis si on parle de durée dans les salles, nous, à l'époque, c'était comme une pièce de théâtre. Ça pouvait, oui, s'étaler sur des mois. Maintenant, tout le monde doit voir le film. Tout le monde s'envoie des messages texto, puis ils vont tous le voir la première fin de semaine. Puis après, je connais un gérant du cinéma Banque Scotia à Montréal, puis il disait qu'il pouvait voir de jour en jour le Batman contre Superman, l'audience diminuer à cause que le bouche-à-oreille est tellement puissant grâce aux médias sociaux que non, les gens veulent tous le voir en même temps ou tout simplement abandonner si le film ne livre pas la marchandise. Donc moi, je vois ça comme, c'est un défi. C'est comme on parle des films de Pixar qui sont d'une très, très grande qualité. Et quand la qualité est là, les gens sont là en nombre spectaculaire. Et quand un film du même type, mais qui est tout simplement moyen ou moins que moyen, on voit que ça fait même pas 10 % des recettes des bons. Donc, il y a comme une obligation de qualité si on veut que les gens payent ce... Comme on disait, le prix des billets et tout ça, il faut qu'ils livrent. Donc, moi, je crois qu'on va continuer. Le cinéma va continuer à exister, mais il va se transformer peut-être avec moins de salles où l'expérience va vraiment être... Ou bien une expérience vraiment de cinéphile qui a le goût de se rassembler dans des centres comme le cinéma Beaubien ou le cinéma du Parc où ça va être, oui, des multiplexes, mais pas nécessairement avec 15-20 écrans. Je pense qu'à Montréal, on voit comme le cinéma, le Cinéplex Forum, il y a trop de salles dans ce cinéma-là. C'est un concept d'il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. Mais maintenant, je pense que s'il y aurait 8-9 salles, ce serait bien. 20, c'est trop.
Martin, est-ce qu'on garde un espoir pour le blockbuster ou c'est fini, c'est mort?
Moi, personnellement, je pense que j'ai décroché, honnêtement. Je trouve que les blockbusters ont perdu le sens de l'émerveillement. Guardians of the Galaxy est une exception, parce que quand je l'ai vu, effectivement, je me suis dit, ah, OK, il y a comme une fraîcheur. Mais sinon, j'ai plus... je sais que j'avais été voir Fast and Furious, le dernier, à Los Angeles, avec mes fils. Puis la salle était vide, c'était le Chinese Theater, la salle était vide. Puis j'ai regardé ce film-là, qui est absolument spectaculaire d'un point de vue technique, puis je ressentais rien. Puis je me disais, est-ce que c'est moi ou c'est le film, tu sais? Puis je peux pas dire, puis le film, bon, je pense que c'est celui qui a eu les meilleures critiques dans toute la série, bon. Donc je pense que c'est moi, tu sais, je pense qu'à un moment donné, moi, il y a une rupture. Ce que je parlais tantôt, le côté désincarné, moi, je suis devenu indifférent. Je suis devenu... ça me touche plus. Ça ne m'émerveille plus. Puis je sais pas si ça va revenir, tu sais. J'espère, mais...
On se le souhaite. On te le souhaite,
ben
évidemment.
Oui, ben oui.
Merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous pour parler de Blockbuster pendant toute cette heure-là. Comme c'est la tradition maintenant dans ce podcast de 24 images, je vous ai demandé un petit exercice aussi. Je vous ai demandé d'en choisir un film justement qui va redorer le blason du blockbuster en provoquant de l'émerveillement. Ce film que vous auriez envie de conseiller aux gens qui nous écoutent, un blockbuster évidemment dans l'idéal. Alors Martin, celui qui te garde encore émerveillé, c'est lequel?
Tu veux dire que je peux aller loin?
Oh ouais, oui, tu peux aller très loin.
Je peux aller très, très loin. On parlait de Close Encounters tantôt. Tu parlais de pour moi, Close Encounters, c'est la rencontre presque parfaite entre l'imaginaire très, très pur d'un cinéaste et une technique magnifique, parce que les effets spéciaux là-dedans sont utilisés de façon très, très poétique. Et c'est un film qui... moi, je me souviens, j'avais vu Close Encounters dans une salle de 1000 sièges, un soir de tempête de neige, et on était trois dans la salle, parce que la ville était complètement paralysée. Et j'étais sorti de la salle, et j'avais juste le goût de retourner voir le film. Et chaque fois que je revois ce film-là, je revis ça. Mais, bon, est-ce que c'est de la nostalgie? Je sais pas. Mais s'il y a des gens qui écoutent en ce moment et qui n'ont jamais vu ce film-là et qui peuvent le voir dans de bonnes conditions, parce qu'il faut quand même que... sur un grand écran... Pour moi, ça, c'est un exemple de blockbuster où il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la magie du cinéma.
Merci. Pierre, un film, un blockbuster pour retrouver la magie?
Oui. Ben moi, on parlait de Guardians of the Galaxy qui sont assez récents. Pour moi... Puis on l'a comparé beaucoup à Star Wars, j'en parlais tantôt. Puis il y a quelque chose, oui, c'est des films spectaculaires, mais qui sont profondément ancrés dans l'expérience humaine. Pour moi, c'est ça. Si c'est désincarné, comme on disait, que c'est que de la pétarade visuelle, je pense que c'est ni intéressant pour des gens, disons, de notre génération. Moi, j'ai 53 ans. Ça, moi non plus, ça m'intéresse vraiment plus. Je pense que même les jeunes... Oui, ils vont venir pour certains de ces films-là, mais ça va être de plus en plus des hit and miss, mais plus de miss que de hit. Donc, pour moi, l'avenir est dans je pense que les gens veulent tout. Ils veulent avoir un film qui est beau, qui est spectaculaire, mais qui est aussi touchant, avec lequel ils peuvent s'identifier avec ce que vivent les personnages. Puis je pense que Star Wars a créé tout cet engouement-là parce qu'il y avait ça originalement dans le film. C'était pas seulement au niveau des effets spéciaux et tout ça, donc... Je vais laisser du temps.
Alexandre, on a tout le temps du monde. Alexandre, un film pour redorer le blason du blockbuster.
Parce que la question nous a été envoyée au préalable, fait que j'ai essayé d'y penser. Puis je me disais que c'est un peu une question piège. J'ai l'impression que pour tout le monde, c'est un peu son film préféré, qui est le film à revoir peut-être pour se rappeler de ce qu'on aime d'un blockbuster. T'sais, je me disais, est-ce que je veux parler de Star Wars vraiment? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répéter Star Wars? Back to the Future aussi, c'est un film qui est comme un blockbuster, qui a quand même quand on parlait de l'humain dans le blockbuster, je pense que Back to the Future, c'est un bel exemple de ça. Puis je me dis, pour essayer de pas avoir l'air trop d'un vieux grincheux, même pas si vieux que ça, je veux dire... je trouve que Super 8, quand même, dans les films des dernières années, c'est un film qui a quelque chose de particulier. Je trouve que c'est aussi un film qui a un attachement à l'idée de communauté, qui met en scène un petit village, puis on voit toute la dynamique dans ce petit village. Je trouve que quand même, dans les films des dernières années, c'est peut-être celui qui... C'est un film qui a ses défauts, mais je trouve que c'est quand même un film qui a plusieurs qualités que les blockbusters d'autrefois pouvaient avoir. Puis qui est nostalgique, mais qui est conscient de sa nostalgie, qui est pas juste... en train de l'exploiter de manière un petit peu cynique puis calculée. Je pense que c'est un film qui la vit vraiment.
Puis ça, c'est fait par le gars qui a fait Cloverfield. Hein?
En fait, le producteur, c'est J.J. Abrams, le gars qui a fait... effectivement,
il a écrit Cloverfield.
Ça, c'est un autre blockbuster où ça, j'ai embarqué là-dedans. Tu vois?
Super 8.
Ouais, c'est mon...
C'est
oui,
ton
mais,
choix.
Mais c'est ça, je trouve. Mais en général, moi, J.J. Abrams, je trouve qu'il y a quand même une vision. Puis, les gens ont beaucoup tapé sur The Force Awakens, mais je trouve que The Force Awakens, oui, il y a l'aspect, c'est un film de Disney, puis c'est sûr qu'il fallait que ça marche. Mais je trouve qu'il y a quand même l'enthousiasme d'un petit gars qui a grandi en regardant Star Wars, puis qui peut enfin faire son Star Wars dans ce film-là. Puis de la même manière, je trouve que même si c'est Star Trek, les gens ont pas beaucoup aimé les Star Trek de J.J. Abrams, mais je trouve que... Il y a toujours une candeur dans le cinéma de J.J. Abrams qui est un peu l'héritier de Spielberg en quelque part.
Candeur, émerveillement, c'est pourtant simple. On ne sait pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Peut-être qu'ils y arriveront. Pour ma part, j'aimerais vous recommander... je ne sais pas si on peut dire que c'est un blockbuster. Techniquement, oui, parce qu'il a coûté 80 millions, on en a rapporté 245. Il est sorti sur 2621 écrans. Mais c'est Face Off de John Woo, le troisième film américain de John Woo. Le face-à-face complètement improbable entre John Travolta et Nicolas Cage. L'un est policier, l'autre est un criminel de haut vol. Ils vont échanger leur visage, littéralement. Et c'est un des films, évidemment, comme toujours chez John Woo, avec des ralentis, des envolées de colombes, enfin on a tout ce qu'on aime du style de John Woo, lyrique, extravagant, mais au service d'une histoire qui est quand même extrêmement prenante et divertissante. Donc si vous ne savez pas quoi faire, un de ces beaux soirs d'été qui arrive bientôt, tapez-vous Face Off, vous risquez de bien vous amuser.
En double bill avec The Rock pour avoir une double dose de Nicolas Cage, ça va être
exactement.
Attendez l'automne, venez à Fantasia plutôt.
Absolument, j'aimerais vous remercier tous les trois d'être venus parler de Blockbuster durant ce deuxième épisode du podcast de 24 images. Alexandre Fontaine-Rousseau, merci beaucoup.
Merci.
On peut te lire dans Panorama Cinéma, 24 images, les BD, on t'écoute à la radio. Des plans pour cet été?
Je travaille sur 5 livres en même temps, fait que je vais faire ça.
On surveillera ça très prochainement. Martin Girard, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
On surveille la sortie de Nitro Rush le 31 août, c'est bien ça?
Oui.
Et la série Web Therapy en ce moment sur les ondes de TV5.
Oui.
Et Pierre Corbeil, merci beaucoup d'avoir été là.
Bienvenue.
Et c'est l'édition de Fantasia qui s'en vient.
Le 20e.
Le 20e qui arrive le 14 juillet, si je ne me trompe pas. Donc, merci infiniment à tous les trois d'avoir été avec nous. Et à vous tous qui nous écoutez, à la prochaine.